RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
L'After, jusqu'à 23h.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
François Pinet.
C'est reparti pour l'after, encore une heure en votre compagnie. Merci beaucoup d'être avec nous. L'été, c'est 21h-23h, à l'horaire de l'after sur RMC, à la radio et sur BFM Sport. À la télé, on vous attend nombreux au 32-16, avec toujours Samy Traoré qui est avec nous et Jonathan Macardy. À 22h20, le Mercato Show, comme tous les soirs dans l'after. On vous donnera quelques infos d'ailleurs sur Bordeaux qui cherche à remplacer Malcolm. Et puis le quiz à 22h45, vous êtes prêts messieurs?
Oui. Ouais.
Ne soyez pas prêts trop tôt, hein. Attention. Aujourd'hui, en plus, on vous fait gagner un jeu dans l'after, le Perrudo. Je ne sais pas si tu es un spécialiste du Perrudo, si. Samy. C'est le jeu auquel jouent les joueurs de l'équipe de France, beaucoup, et les joueurs de foot en général. Et donc, c'est un Perrudo aux couleurs de l'équipe de France qu'on vous offre dans l'after ce soir. Celui qui remportera le quiz remportera ce jeu. C'est parfait sur la plage ou en vacances. C'est un jeu de dés, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Vous jouez avec des gobelets, vous jouez avec des dés. J'ai jamais joué à ça, hein, mais il paraît que c'est super bien et que c'est addictif.
Ouais.
T'as déjà joué
Ouais. Mais c'est un beau cadeau. On fait gagner des beaux cadeaux ce soir.
On fait gagner des beaux cadeaux. Attendez, ça monte en gamme l'after. Paris Saint-Germain, Atlético Madrid. On va revenir évidemment sur le match, la victoire du PSG. 3-2. C'était le dernier match de préparation du PSG avant le trophée des champions qui aura lieu samedi face à l'AS Monaco. On va voir ce qui s'est passé effectivement. 3-2 avec des buteurs jeunes et issus du centre de formation. Christopher Nkunku, premier buteur de la partie. Moussa Diaby, qui lui a participé à l'Euro des moins de 10 ans avec
bon
les
joueur,
Bleus,
lui, hein.
A marqué également en deuxième période. Et puis il y a eu des buts entre-temps de Molero pour l'Atlético. Et c'est Virgilio Postolacci qui avait signé d'ailleurs un contrat pro le 4 juillet dernier, qui a marqué un superbe but à seulement 18 ans. Le but de la victoire, puisque finalement le PSG s'imposera 3-2. On va écouter un de ces jeunes qui est entré à la mi-temps, c'est Yacine Adli, 18 ans seulement, après la victoire du Paris Saint-Germain.
On est content parce que quand on est rentré à la mi-temps, on s'est dit les gars, il faut qu'on fasse le boulot, il faut qu'on soit impliqué un maximum. Maintenant, je pense que tout le monde a répondu présent et c'est très très bien pour nous les Titi et surtout pour le centre de formation qui montre que il y a vraiment des bons jeunes au PSG. Maintenant, on essaye de se faire petit parce que voilà, il y a un effectif de très grande qualité. Maintenant, on est là pour progresser, on est à l'écoute du coach et tout se passe très bien pour le moment.
Alors, on va parler dans un instant du 3-5-2, de la tactique visiblement privilégiée par Thomas Tuchel. D'abord sur cette rencontre, sur ce match, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous retenez comme Yacine Adli la performance de la jeunesse ou autre chose? Jonathan.
Moi je retiens que les jeunes, on sait que le Paris Saint-Germain sort des jeunes de grande qualité, à l'image de Yacine Adli qui a failli partir à Arsenal et c'est heureux, c'est une bonne chose que le Paris Saint-Germain l'ait gardé. Franchement, quand je vois Diaby et Adli sur le match qu'ils ont fait, je pense que c'est des très très bons joueurs, la prestation était solide, c'était cohérent. Je pense juste que là où le bas blesse, c'est la charnière qui a été qui a pas été au niveau tout simplement, mais on commence à sentir ce que Tuchel veut mettre en place et c'est agréable de voir des jeunes joueurs à l'écoute comme ça. Et Adli, que j'ai pas mal vu jouer dans les catégories avec les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui est en progression constante et à mon avis ça va être un joueur qui pourra pourquoi pas prétendre sur le moyen terme à se faire une place dans cet effectif du PSG.
Alors je sais pas Samy s'il faut vraiment interpréter ces matchs de préparation, il y a eu beaucoup de changements et il a fait 10 changements Tuchel à la mi-temps. Il a fait rentrer des jeunes, il y a eu Verratti, Lo Celso qui était titulaire pour la première fois cette saison, Di Maria aussi a joué.
C'est pour ça qu'ils ont pris deux buts évitables.
Voilà. Donc il y a pas beaucoup d'enseignements à tirer du résultat.
Après c'est toujours bien de les gagner les matchs, puisque quand on joue des matchs, même que ce soit des matchs amicaux avec la fatigue, on travaille toujours mieux quand on les gagne, ça c'est sûr. Après je pense qu'ils ont mené 2-0, comme disait Joe, ce qui leur a fait défaut un peu sur ce match, c'est je pense cette défense centrale. Après on sait que c'est pas les titulaires au poste,
c'est pas les tauliers.
C'est pas les titulaires au poste, on a revu Kurzawa, on a revu Verratti et on sent tout de suite que quand il y a des joueurs comme Di Maria qui sont, et Lo Celso qui a fait un très bon match aussi, Donc quand on récupère des joueurs comme ça, ils sont là dès le coup d'envoi, on sait pertinemment si que c'est pas la même prestation que face à Arsenal.
Évidemment très compliqué pour Tourelle, mais comme tous les grands clubs,
bien sûr.
Coupe du Monde, c'est toujours très compliqué, on a les joueurs au compte-gouttes.
J'ai parlé d'Adli, mais Nkunku continue de faire des bons matchs à chaque fois qu'il est aligné avec les pros.
Alors, on avait parlé hier d'ailleurs,
un bon joueur.
On a eu dans l'after, on a parlé, vous savez, des gardiens, vous en souvenez, c'était juste hier soir. Trapp était titulaire aujourd'hui.
Oui. Il a fait un très bon match d'ailleurs.
Pas mal. Donc, Tourelle qui demandait à voir ses trois gardiens à l'œuvre avant de prendre une décision. Trapp, Buffon et Areola. Ouais, Areola ne reviendra que le 6 août avec les autres champions du monde.
C'est ce qu'il nous dit. Donc ça veut dire qu'il va attendre que qu'Alphonse rentre. Il rentre quand? C'est le 6
août. Le 6 août. Avec Kimpembe, Mbappé.
Donc le championnat, il reprend quand? Il aura déjà repris.
Il reprend le 10.
Donc
mais il ne jouera pas le trophée des champions.
Donc il jouera, ouais, mais le 4. Il peut prétendre, logiquement, il devrait prétendre à pouvoir jouer, soi-disant, mais il sera rentré 4 jours avant. Puisqu'il rentre le 6, le premier match est le 10. Donc, comment il va faire pour évaluer ses 4 gardiens en 4 jours?
Mais t'as raison.
Il a déjà quelque chose dans la tête.
Bien sûr.
Bon, alors, ce qu'il a dans la tête, et c'est là où on voulait en venir, c'est ce 3-5-2, ce fameux système.
3-4-3.
Ou 3-4-3. On est d'accord. Mais on va vous citer une équipe possible du Paris Saint-Germain en 3-5-2. Pour faire jouer toutes les vedettes. Pour ça qu'on a choisi ce schéma. Mais si tu veux, ça peut être un 3-4-1-2. En gros, Buffon dans les buts. Voilà, on a tranché, mais ça pourrait être n'importe qui. Ensuite, cette défense à 3, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Meunier à droite, Kurzawa à gauche. Verratti, Rabiot au milieu de terrain, Neymar en numéro 10, derrière une doublette Cavani même Mbappé.
C'est pas mal, quand même.
La question de l'after ce soir, c'est est-ce que le 3-5-2 n'est pas finalement le meilleur système tactique pour le Paris Saint-Germain avec les joueurs que l'on a?
Très franchement, cette défense à 3, ça fait longtemps que j'aurais voulu l'avoir au PSG, du temps où il y avait les trois brésiliens, vous rappelez, Marquinhos, Thiago Silva et David Luiz. Je pense que ça aurait super bien marché avec Pastore en 10 derrière Ibra et Cavani. Ça a été une sorte de fantasme, j'aurais toujours voulu voir cette équipe alignée. Après, très franchement, peu importe le système, ce qui compte avant tout, c'est l'intention et le style de jeu.
Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Peu importe le système,
ce qui compte premièrement, c'est l'intention et le style de jeu que Tourelle veut mettre en place. Ouais. On en voit même sur ces matchs amicaux, on commence à sentir ce qu'il veut mettre en place. Une équipe qui est très forte au pressing, qui va très vite de l'avant, qui est très agressive sur le porteur.
Après, c'est les joueurs qui vont mettre l'animation. On est d'accord, quel que soit le système.
Est d'accord.
Il y a une chose qui me plaît dans cette défense à 3, parce qu'au final, ce qui compte dans ce qui fait cette caractéristique-là, c'est la défense à 3, c'est qu'il y a deux latéraux qui, à mon sens, vont bénéficier de ce système-là, Kurzawa et Meunier, qui, à mon sens, seront meilleurs dans une défense à 5, appelons-la comme on veut.
Surtout pour Kurzawa, c'est parfait.
Ce sera mieux que dans une défense à 4 à plat. Et je pense surtout
que Meunier qui a brillé avec la Belgique dans ce système.
Thiago Silva, que j'ai beaucoup critiqué, moi, je pense que c'est le joueur idéal pour jouer dans une défense à 3, pour jouer ce rôle de voltigeur, tu sais, le mec vraiment libéraux, entouré de deux costauds, où il va pouvoir vraiment faire parler sa qualité de relance et son jeu long et son jeu court, sa qualité de passe. Donc je suis très content de le voir comme ça.
En plus, quand on regarde cette composition d'équipe possible, Thiago Silva, à côté de lui, il y a un Marquinhos qui sait aussi jouer à droite. Ouais. Enfin, il a déjà joué arrière-droit, Kimpembe a déjà joué arrière-gauche.
C'est un vrai gaucher.
On a l'impression quand même que les trois pourraient bien s'entendre dans ce système-là.
Hyper complémentaire.
Avec des pistons, Meunier et Kurzawa sur les côtés. Et puis, il y a aussi quelque chose, ça évite de parler de la sentinelle. Ce grand problème avec le départ de Thiago Motta. T'as un Rabiot, t'as un Verratti au milieu de terrain. Alors elle est peut-être trop offensive cette équipe, mais
je suis pas d'accord.
Après suivant le schéma de jeu, parce que là on a mis la pointe haute, on a mis Neymar pointe haute.
Mais t'es obligé de le faire jouer Neymar.
Ouais, mais après il peut changer son système, il peut changer son système et mettre pointe basse.
C'est-à-dire?
Au lieu de
toujours. Ce qu'il a fait un peu d'ailleurs dans les matchs de préparation.
Toujours avec ses trois défenseurs, les deux pistons sur les côtés. Mais tu mets une sentinelle.
Voilà.
Oui, mais alors t'enlèves qui? T'es obligé d'enlever un des trois de devant.
T'as toujours un choix à faire.
Enlever Neymar, Mbappé ou Cavani.
Je sais pas, si tu dois jouer contre le Real ou une grosse cylindrée, au match aller ou au match retour, suivant le match là-bas, tu peux privilégier
C'est ce que nous dit Tikris sur le hashtag RMC Live, c'était pas un 3-5-2, mais un 3-4-2-1 qu'a utilisé Tourelle. lors des matchs de préparation, on peut aussi faire un 3-4-2-1 avec Neymar et Mbappé en soutien de Cavani. Voilà. Si
mais je trouve ça quand même
aussi
important. Alors ça va relancer tout le débat autour d'Adrien Rabiot qui a rendez-vous avec Nasser dans la semaine pour parler de sa prolongation. On sait que lui il veut pas partir libre, il sent quand même renouvelable pour le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même à souligner. Je pense que pour assurer l'équilibre de ce système-là, que ce soit un 3-4-3 ou un 3-4-2-1 ou un 3-5-2, peu importe comment on l'appelle, c'est important d'avoir un joueur qui a ce profil de sentinelle. Le joueur qui, lors des phases défensives, lors des phases de transition défensive, fait le pas en arrière pour se replacer avec ses centraux de manière à garder l'équilibre défensif. Donc je pense qu'Adrien Rabiot, justement, il a toutes les capacités, les qualités pour faire ça. Et j'espère que le fait de travailler avec Tourelle, de voir qu'il va progresser avec Thomas Tourelle, ça va un petit peu changer son avis qui semblait un peu figé sur son positionnement. Parce que je le redis, enfin je me répète, mais je pense qu'Adrien Rabiot, s'il accepte de jouer un peu plus bas sur le terrain, s'il accepte de jouer ce rôle de sentinelle, ça deviendra un joueur de classe mondiale.
Puisque tu parles de la sentinelle, il y a quand même cette déclaration de Marco Verratti après la rencontre qui est assez intéressante, que vous pourrez trouver d'ailleurs sur le site rmcsport.fr, où il dit que le Tourelle lui a parlé justement de ce rôle de numéro 6, que c'était un poste qui pouvait, pourquoi pas, lui convenir, ou en tout cas, il pourrait utiliser Verratti dans ce rôle-là.
Mais tout à fait. Et alors, il y a une chose, c'est que Verratti, les fois où on l'a mis devant la défense dans une défense à 4, ça marchait pas. Mais je pense que avec une défense trois défenseurs centraux, je pense que justement il pourrait très bien remplir ce rôle parce qu'il est assez intelligent pour pouvoir se positionner lors des phases de transition, et je demande vraiment à voir.
Bah voilà ce qu'il a dit exactement. Je ne sais pas si je vais jouer plus souvent au poste de numéro 6. L'entraîneur voulait que j'évolue à ce poste aujourd'hui face à l'Atlético car cela faisait longtemps que je n'avais pas joué. J'ai touché beaucoup de ballons, je me sentais à mon aise. C'est une position que j'apprécie, même si je dois sûrement améliorer beaucoup de choses. Ce sont les choix de l'entraîneur et nous essayons d'être bons dans plusieurs rôles différents car c'est un avantage. Voilà ce qu'a dit Verratti. Donc
c'est séduisant. Hein.
Ça peut effectivement fonctionner. Sur l'appli RMC Direct Studio, il y a CRZ qui nous dit oui, très très bon système car elle permet de défendre à 5 en phase défensive et d'attaquer à 5 en phase offensive grâce aux faux ailiers. Le PSG en 3-5-2, mais où va jouer Neymar, nous demande Mamad. Ben nous on l'a mis en 10, mais ça peut être aussi comme Mbappé une sorte de deux meneurs de jeu derrière Cavani. Il y a plusieurs possibilités avec ce système-là. C'est un système qui, Samy, je sais pas si t'as déjà joué dans ce système.
Oui, si, on jouait comme ça, ouais. Avec Garnot.
À Nice.
À Nice, on a joué comme ça, ouais.
Ouais. T'étais avec qui?
Avec Kobos et, Varro.
Qui jouait dans l'axe?
T'avais José, t'avais moi.
Et toi, tu jouais plutôt à droite.
Je jouais plutôt à droite. Moi, Pancho. Cédric Varro côté piston et gauche, t'avais Noé aussi.
Et côté devant piston. Vraiment dans l'axe c'était.
Il y avait Chouafny aussi, il y avait Ederson.
Ouais.
Ederson, tu te souviens du Brésilien?
Oui, bien sûr.
Everson, ouais, Ivy, ouais. Il y avait Everson.
Et tu te sentais bien dans ce système? C'est un système que tu trouves
après,
positif?
Déjà quand t'es centraux, t'as rarement le ballon. Bon, tu vas faire ta première relance. Après ton travail il est fini. Après faut être attentif au déplacement de l'attaquant. Mais là
travail était fini une fois que t'avais fait ta relance.
Une fois que t'as relancé correctement, le ballon est maîtrisé. Après tu dois faire attention à ton attaquant. Le jeu il va se poursuivre et tu vas rester spectateur quand tu joues derrière. Mais quand tu joues à 3 comme ça, t'as la possibilité d'écarter. Donc ça fait déjà que t'as la possibilité d'aller un peu plus haut sur le terrain, de relancer un peu. Ben comme la Sanadara il a fait à force d'écarter les lignes, il a pu un moment emmener ou deux fois emmener sur 2-3 mètres, faire un décalage, et c'est intéressant pour...
C'est le joueur qui joue vraiment dans l'axe qui est hyper important.
Qui est hyper important.
Là,
ouais.
Je pense que Thiago Silva, c'est un rôle qui est taillé sur mesure pour lui. Il a la qualité technique pour ça, la lecture du jeu.
Mais même les trois, de toute façon, les trois, ils ont de belles relances, à part alors, les trois centraux. Ouais,
sur le hashtag RMC Live, il y a quand même Omelchino qui nous dit, Jonathan, hier, tu parlais de la défense à 3 qu'avait testé Laurent Blanc contre Manchester City, et tu disais que c'était une horreur.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu dis que tu la réclames depuis bien longtemps.
Je persiste. C'est juste que c'est un système qui a besoin d'être travaillé et qui n'offre pas comme ça le jour d'un match retour à élimination directe en Ligue des Champions. Ça, c'est une grosse erreur. Alors attention, c'est un système qui est hyper séduisant, mais ça demande beaucoup d'automatisme et beaucoup de travail.
Ça demande
plus de travail qu'une défense à 4 parce que le rôle notamment des pistons de Thomas Meunier, de Daniel Alves et de Levin Kurzawa, il est quand même compliqué à interpréter. Il va falloir qu'il se bouffe des sens tactiques parce que il faut être assez intelligent pour savoir te te projeter,
Meunier joue déjà comme ça avec la Belgique, déjà,
Meunier, exactement. Te remettre sur le, te replier en défense.
C'est parfait pour lui.
Les deux centraux qui vont entourer Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe aussi, ils vont avoir du boulot parce que c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. Ils auront beaucoup plus de
confrontations latérales. En général, ouais, bien sûr, faudra qu'ils couvrent de toute façon le côté, forcément, mais la plupart des équipes jouent qu'avec un attaquant.
Alors, à 22h16 sur RMC et sur BFM Sport dans l'after, on va prendre Mickaël au 32-16, supporter du PSG. Salut Mickaël.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Mickaël. Est-ce que cette tactique en 3-5-2 ou 3-4-3, comme vous voulez, à 3 derrière, te plaît?
Ouais, non, moi cette tactique, je l'ai trouvée super. J'ai vu le match tout à l'heure et je l'ai suivi aussi sur les précédents matchs de préparation. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Et pour faire la comparaison avec le 3-5-2 de Laurent Blanc, c'était assez différent parce que ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est cette position de faux 10 derrière les deux attaquants. Et je vois très bien, moi, un Neymar, une attaque, un trio à Neymar, Cavani, Mbappé. Je pense que ça peut être très, très efficace. Après, c'est vrai que derrière, les deux postes de latéraux avancés, dont de Meunier et Kurzawa, donc ça va être ça normalement. Oui, moi j'ai peur de Kurzawa. Voilà, moi j'ai peur de Kurzawa à gauche derrière dans cette position.
Mais il sera peut-être mieux.
Très confiant parce que vous pensez peut-être.
Il sera peut-être mieux justement que dans une position une défense à 4. Non, mais de toute façon, défensivement, il est un peu plus
Déjà, ils vont lui ramener un concurrent direct forcément déjà. C'est une priorité pour le Paris Saint-Germain.
Mais
à côté de ça, il va falloir qu'il travaille, mais il a des qualités offensives indéniables pour ce poste.
Je pense que Kurzawa, on sait beaucoup moqué de lui, on lui a beaucoup tapé dessus, mais il a quand même un potentiel qui est assez intéressant. Je pense qu'il a eu du mal à digérer son arrivée à Paris. Il a une qualité de centre et un coffre physique et un jeu de tête aussi. Oublions pas qu'à Monaco, tous les buts de la tête qu'il mettait. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui a juste besoin d'être cadré. C'est facile de lui taper dessus quand il met des vidéos, des photos de lui déguisé en Snoop Dogg à Los Angeles avec des claquettes en bandana, mais ça reste un bon joueur.
Un excellent joueur, je trouve.
Exactement, même Samy.
Bon, Mickaël, toi, elle te plaît cette tactique. Merci d'être passé par RMC. Merci beaucoup. À bientôt dans l'after.
Ciao.
Et on va prendre un autre supporter du PSG au 32-16, Faouzi. Alors pour toi, Faouzi, bonsoir d'abord.
Bonsoir.
J'espère que ça va. Pour toi, c'est pas la tactique idéale pour le PSG.
Ah non, pas du tout. Déjà, pourquoi trois défenseurs, pour moi, déjà, je suis pas trop fan dans le foot.
Pourquoi?
Déjà, parce que pour attaquer trois, défendre à 5, j'aime pas trop ça. Déjà, pour la visibilité du jeu et tout ça.
Mais pourquoi?
J'aime pas.
Alors parfois on a l'impression que c'est un système défensif, mais ça peut être très offensif. On l'a vu avec la Belgique par exemple.
Oui, mais aussi 3-5-2, peut-être 3-4-3, mais 3-5-2, je le verrais pas parce que je verrais pas Kurzawa faire des centres. Déjà ça.
Kurzawa faire des quoi? Des centres?
C'est ça.
Ouais, des centres.
Ah, mais il a un pied gauche quand même. Kurzawa, il a un pied gauche offensivement. C'est défensivement qu'il est plus en difficulté. Kurzawa, c'est pas offensivement.
Exactement.
Où t'as vu un latéral gauche mettre un ciseau comme il a mis l'année dernière? Il y a pas de latéral gauche qui font ça. C'est qu'ils sont à l'aise techniquement.
Il y a match avec Ben Mendy, mais je pense que c'est le joueur qui a la meilleure qualité de centre. Qui a la meilleure qualité de centre.
Quand il y avait Ibra, il a mis combien de passes D?
Il y en a beaucoup, c'est vrai.
Ah, il y en a mis quelques-unes quand même.
Déjà, en trois défenseurs, ça fait team. Ça fait trois défenseurs directs titulaires et ils ont presque joué tous les matchs du PSG sans s'arrêter le PSG.
Ah, il faut recruter.
Il faut recruter un mec avec
Lassana Diarra, quand il a joué derrière sur les matchs amicaux, il est pas mal.
Ah, il a cette aptitude, de toute façon.
Mais
il
y a le fair play financier, 50 millions sur Boateng, peut-être encore plus. Le fair play financier, après... déjà que ça risque de faire très très mal. Puis déjà, Neymar en 10, pas trop fan non plus. Je le préfère mieux sur un côté pour déborder la rapidité. Et j'ai vu sur ce match-là de cet après-midi que déjà, on s'est pris 2-3 comptes ils étaient à deux bonnes parties au fond des filets, mais heureusement.
Ouais, mais tu joues contre des adversaires qui ont de la qualité aussi. On t'a pas dit que Paris Saint-Germain, avec ce système de jeu, allait prendre jeu et allait écraser tout le monde.
Et puis il y a des réglages et c'était une équipe de jeunes. T'as pas des titulaires.
C'est pas des titulaires. Quand tout le groupe va arriver, l'entraîneur va formater, va bien les faire travailler tactiquement et tu verras que ça sera autre chose que ce qu'on a vu quand même aujourd'hui.
Et puis Samy, si c'est en 3-4-2-1, avec donc dans les deux, ça serait Neymar et Mbappé. Mbappé. Tu vois dans les équipes qui jouent comme ça, je repense par exemple, je sais pas moi, au Napoli de Mazzarri, quand il y avait Hamsik, Lavezzi, Cavani devant. T'as quand même les deux joueurs, donc en l'occurrence là Neymar et Mbappé, qui s'excentrent pas mal, qui au final en phase offensive jouent quasiment ailier, tu vois. Et t'as un des deux milieux qui monte. Donc au final, t'attaques avec sur les côtés tes deux pistons plus Neymar et Mbappé qui sont dans les interlignes horizontaux. Cavani en pointe, t'as un des deux milieux que ce soit Verratti ou Rabiot qui apporte le surnombre. Donc non, Neymar et quand
tout le monde est convaincu. Fawzi, on verra si tu le seras. En tout cas, merci beaucoup d'être passé.
J'espère que je me trompe quoi. Bah,
on verra si Tourelle va te convaincre. En tout cas, on ne sait pas encore s'il va mettre en place ce système.
Ils vont. Au pire des cas, ils vont commencer comme ça, mais ils maîtriseront plusieurs systèmes de jeu quand
aussi,
même.
Aussi,
c'est sûr, t'inquiète pas.
Merci beaucoup, Fawzi.
Salut, Fawzi.
Merci, bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé dans l'after. On a l'air tous quand même assez convaincus par ce système-là. On verra si c'est le système que va mettre en place Tourelle. On aura peut-être une petite indication.
De chance.
Samedi prochain contre Monaco, sachant que, on le rappelle, Cavani est forfait pour cette rencontre et que Neymar ne rejoindra le PSG que jeudi, au lendemain de l'arrivée de reste du groupe à Shenzhen, où se jouera donc ce trophée des champions face à Monaco. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Neymar, le Brésilien a tourné une pub pour une célèbre marque de rasoir dans laquelle on le voit en noir et blanc, en gros plan, et on l'entend en brésilien se livrer à cœur ouvert. Petit extrait, écoutez.
Vous pouvez penser que j'exagère, et parfois c'est vrai que j'exagère, mais la vérité c'est que je souffre sur le terrain. Il existe encore un enfant en moi. Parfois cet enfant enchante le monde, et parfois il irrite le monde entier. Je me bats pour garder cet enfant en vie à l'intérieur de moi, mais il ne doit pas sortir sur le terrain. Il m'a fallu du temps pour accepter la critique. Il m'a fallu du temps pour me regarder dans le miroir et me transformer en homme nouveau. Mais aujourd'hui, je suis là. Je tombe, mais seul celui qui tombe peut se relever.
Voilà, un petit extrait, ça dure 1 minute 30. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il s'enfonce pas un petit peu, notre ami Neymar, en faisant ce genre de pub.
Il est payé, c'est une pub. Ah oui, il a écrit un texte.
Ouais. Bah justement, ça manque un peu de sincérité, alors que le texte, normalement, se voudrait sincère.
C'est une pub, pour ça.
Non, c'est pas grave, alors. Rien de grave.
On lui pardonne,
c'est une pub. Mais quand Zidane, il dit d'abord la chaussure droite, après la chaussure, tu vois. Enfin, les pubs, parfois, c'est un peu ridicule, donc non.
Oui, mais le problème, c'est que là, Neymar a été très critiqué. Il est notamment en plus pour cette publicité au Brésil. Il en rajoute une couche, quoi. On a l'impression qu'il avait pas forcément besoin de faire cette publicité. Il est suffisamment bien payé.
Après, à défaut, c'est vrai qu'il prend beaucoup de coups quand même. Attention, on le souligne peut-être pas assez, mais
il les cherche.
Il a le jeu pour après.
Et il en rajoute, il cherche. Parfois, après, quand il fait toutes ses touches de balle, il cherche. C'est une invitation à mettre une savate.
Mais c'est un bon joueur. On peut pas le nommer. C'est vrai que son jeu agace. Parce que c'est pas qu'il cherche, c'est qu'il est un chambreur. Il chambre sur le terrain.
Oui, donc il cherche.
Donc forcément, quand t'as des mecs à caractère, ils vont te reprendre comme il faut. Après, faut que lui, maintenant, pour grandir, il accepte de prendre ces coups-là. C'est tout.
Bah là, il va en prendre encore après cette publicité. Ça, je vous le dis. Ça, c'est possible. Ouais. Là, il va prendre des coups. Vas-y rapidement.
J'ai remarqué que c'est en jouant dans ce système-là, ça a été un petit peu le problème l'année dernière. Mais je pense quand même qu'on en parle pas assez. Mais une doublure à Cavani, ça serait pas du luxe.
Oui.
Un autre vrai numéro 9. Parce que Mbappé, même s'il est amené à être recentré, pas de souci. Mais
Timothy Weah aussi,
qui est très bon.
Qui est très jeune, mais qui est très bon.
Mais qui est très jeune. Voilà, pourquoi pas, bon. Tu vois, je me demande si d'avoir un œuf de complément, ça serait pas mal aussi.
Allez, on l'a trouvé, petit Weah.
22h24 sur RMC et sur BFM Sport. On va faire un petit détour par Brest. C'est la première journée de Ligue 2. Le dernier match entre Brest et Metz, Xavier Grimaud.
Ouais, on approche de la fin du match. Il reste 9 minutes à jouer. Ça tient pour Frédéric Antonetti et les Messins. 1-0, le buteur Ibrahim Anian. On a vu une belle frappe de Coad qui est passé à côté des buts brestois et une demi-volée de Bello côté brestois qui a touché le haut de la transversale. Toujours pas de tir cadré pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. 1-0 pour Metz, 8 minutes encore à jouer à Francis Leblé.
Et on te retrouve Xavier évidemment pour faire le point sur le score de ce Brest-Metz. À tout de suite dans l'after, le mercato dans un instant avec des infos sur Bordeaux qui cherche à remplacer Malcolm. On va vous donner quelques noms, on a quelques pistes à vous donner. À tout de suite dans l'after, toujours avec Jonathan Macardy et Samy Traoré sur RMC et BFM Sport. À tout de suite.
RMC, l'after, jusqu'à 23h, François Pinet.
Retour de l'after, encore une demi-heure ensemble en votre compagnie. On vous fait gagner des jeux ce soir si vous jouez au quiz avec nous à 22h45, 22h50 à peu près, avec Jonathan et Samy Traoré. Le vainqueur du quiz remportera
magnifique
un jeu, le Perrudo. Le Perrudo, c'est le jeu qu'il ne faut pas rater maintenant sur les plages en vacances. C'est le jeu qui a permis à l'équipe de France d'être championne du monde quand même. Ils ont tous joué à ça. Voilà, c'est un jeu de dés.
Donc appelle si tu veux champion du monde toi aussi.
Et on vous offre
exactement
le jeu Perrudo. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez gagner cette semaine un jeu aussi, le Subutéo. Voilà, on vous offre la boîte Subutéo, la réédition de la finale France-Brésil 98 avec les petits personnages en bleu et en jaune. C'est un jeu où vous jouez avec votre doigt, ça ressemble à du vrai foot sauf que c'est avec les doigts. Et pour remporter cette boîte Subutéo, vous envoyez, moi j'ai joué à ça, vous envoyez After au 7-32-16, After au 7-32-16, et il y aura un tirage au sort en fin de semaine. Allez, c'est parti pour le Mercato Show, avec d'abord des informations sur les Girondins de Bordeaux qui veulent passer à l'attaque après la perte de Malcolm. Vous savez qu'il a été vendu 41 millions d'euros au Barça, et les actionnaires girondins qui sont toujours en négociation, mais ça devrait se faire la vente avec un fonds d'investissement américain, ciblent plusieurs joueurs. D'abord le Parisien Christopher Nkunku, qui n'a visiblement pas montré d'intérêt réciproque pour aller à Bordeaux, surtout que visiblement Tourelle pense lui donner un peu de temps de jeu.
C'est un peu prétentieux, je pense.
Le Guingamp paye Yanis Salibur.
Très bien,
qui lui cherche un nouveau challenge après plusieurs transferts avortés. Ça pourrait être une piste. Et puis le Dijonais Naïm Sliti, qui pourrait partir contre un chèque de 10 millions d'euros. Il semblerait que Sliti souhaite quitter le club dijonais. En tout cas, le coach Gustavo Poyet attend des recrues. Il s'est montré plutôt inquiet sur la passivité du mercato bordelais.
Je suis inquiet avec lui.
Ça va se décanter quand la vente sera actée, malheureusement, je pense.
Il faut que ça se décante vite pour les Girondins de Bordeaux. Une information RMC Sport maintenant sur Jimmy Briand. Vous savez qu'il y a eu un échec pour lui dans les transferts avortés à l'Impact Montréal au Canada, alors que c'était tout proche de se faire. Il a été approché par le Stade Rennais, on en a parlé tout à l'heure avec Olivier Létang, pour ceux qui nous rejoignent, qui cherche à renforcer son attaque. Alors Olivier Létang, le président, nous a dit qu'il n'y avait pas eu de refus de la part de Jimmy Briand. En tout cas, pour l'instant, le joueur ne sera pas au Stade Rennais. Il est toujours un joueur de l'an avant Guingamp. Voilà.
J'ai cru voir un article comme quoi le président de Guingamp avait déclaré qu'il n'appartenait plus à Guingamp.
Ah si, il appartient toujours à Guingamp.
Parce qu'ils avaient actuellement, il est toujours.
Ils avaient dit qu'ils avaient résilié le contrat. Ils avaient résilié le contrat et que lui, s'était pas mis d'accord avec l'Impact de Montréal, lui, il avait rien à voir là-dedans.
Bon, en tout cas, lui, Jimmy Briand, il privilégierait un départ à l'étranger.
Parce qu'il y a une somme que l'en avant Guingamp doit récupérer justement de ce transfert. C'est pour ça que c'est bizarre.
C'est bizarre cette situation de Jimmy Briand. Hein. On verra si. On espère d'ailleurs qu'il trouve un point de chute, parce que c'est un superbe joueur, Jimmy Briand. Ouais. On va parler du Real Madrid maintenant, qui ne serait pas seul sur le coup sur Eden Hazard. Pourtant, ça fait plusieurs semaines qu'on annonce plusieurs années, très proche de s'engager avec le Real, mais là encore plus proche avec le départ de Cristiano Ronaldo, le transfert qui tarde à se concrétiser. Et l'ancien Lillois aurait pourtant trouvé un accord avec le Real il y a un bon mois, mais selon nos informations, le Barça a montré récemment un fort intérêt pour l'ancien Lillois, et cette dernière approche fait hésiter le joueur. Il hésiterait entre le Real et le Barça, c'est jamais bon. Même si pour accueillir Hazard, le Barça devra certainement se séparer de l'un de ses éléments offensifs, surtout avec l'arrivée récente de Malcolm. Ouais. Il y a quand même Dembélé, il y a Coutinho aussi, Messi bien sûr, Suarez. Voilà, Hazard au Real Madrid, a priori, quand même, la porte est grande ouverte pour son arrivée cette année.
C'est le destin qui semble écrit. Hein.
Après, vaut mieux pour lui, de toute façon, qu'il ait une conversation avec l'entraîneur, avec quel que soit l'entraîneur. Parce que si c'est le président qui l'amène, l'entraîneur ne le veut pas, ça va être compliqué.
En tout cas, c'est l'entraîneur Lopetegui qui a remplacé Zidane.
Il vaut mieux avoir une conversation avec l'entraîneur.
T'as pas rien sur Balotelli?
Non, alors sur Balotelli,
il
pour l'instant,
il veut pas aller à Marseille, il a dit.
Alors, elle est où la caméra? La caméra, elle est là. Ouais, je fais un appel solennel à Jacques-Henri Hérault. Michy Batshuayi est convoité par Valence. Je pense que c'est une piste qu'il faut pas louper pour l'OM. L'argent. Ouais, il y a l'argent. Vous avez de l'argent. Vous pouvez mettre un bon salaire. Je sais que ça fait un peu la redite de reprendre un joueur, mais rapatrier
Michy. Tu regardes pas la bonne caméra,
rapatrier Michy. C'est l'attaquant qu'il faut à l'Olympique de Marseille, c'est Batshuayi.
Mais tu devrais travailler au recrutement à Marseille, non?
Écoute, Batshuayi à Marseille, il faut le faire.
Alors, puisqu'on parlait du Real Madrid, excuse-moi, mais j'étais en train de parler du Real Madrid. Il y a d'autres informations, puisque Courtois serait bloqué par Chelsea alors qu'il était courtisé et annoncé au Real Madrid. Pas pas question pour les Blues de laisser filer leur gardien, le portier belge qui attend un feu vert de Chelsea pour lui partir. Une fois le nouveau gardien signé, Courtois pourra paraffer son nouveau contrat avec le Real Madrid, mais il faut attendre justement le remplaçant de Courtois. Et parmi les pistes potentielles, les noms de Petr Cech, Alphonse Areola ou encore Jordan Pickford ont été évoqués. Voilà, on parle d'un transfert de 35 millions pour Courtois au Real Madrid.
C'est pas cher. Hein.
Pickford, justement, puisqu'on en parle, Everton souhaite le prolonger. Les Toffees qui veulent verrouiller le gardien de la sélection anglaise qui a été très bon pendant ce mondial. Voilà. Thibaut Courtois au Real Madrid. Affaire à suivre. Et puis le Real qui bloque aussi Kovacic, l'international croate qui souhaite quitter le Real Madrid pour avoir plus de temps de jeu. Et selon AS, le quotidien madrilène, il aurait même annoncé à son entraîneur Julen Lopetegui ainsi qu'à ses coéquipiers sa volonté de quitter le club. Le Bayern et l'AS Roma auraient approché le vice-champion du monde croate. Pour autant, le Real n'est pas vendeur selon le quotidien madrilène. Kovacic, qui revient de vacances le 5 août, ne désespère pas de convaincre le Real de le laisser filer. Et puisqu'on parle du Real Madrid, en plein changement, peut-être en plein nouveau cycle, on va prendre Emel au 32-16, supporter du Real. Salut ML.
Bonsoir les gars.
Bonsoir. Salut.
Alors le Real Madrid, le mercato du Real, comment tu le juges?
Écoutez, ça fait quand même assez longtemps là que j'écoute Lester, et j'entends Jonathan pas mal parler d'un mercato post-Coupe du Monde qui finirait assez tard. Donc moi déjà je tiens à signaler deux choses, que le mercato finit en première ligue le 9 août et en Italie une semaine plus tard il me semble. Donc le Real qui vient de laisser Cristiano Ronaldo ne ferait aucun effort en ce moment, enfin pas d'effort significatif en tout cas, ni pour recruter Eden Hazard, ni pour recruter Mauro Icardi. Et la but pour toi, enfin vous en avez parlé tout de suite, elle propageait de plus en plus parce que Chelsea, à un moment, il y a eu la rumeur Reina, il y a eu la rumeur Jack Button, il y a eu la rumeur Pickford, mais je pense que sincèrement, il n'y en aura aucun qui viendra. Et écoutez, je commence à être pas mal inquiet parce que moi, enfin, j'ai grandi un peu avec l'éducation Real Madrid, c'est en Mauritanie où il y a le culte du club espagnol. Et ça fait 15 ans que je suis le Real et j'ai acquis pas mal d'expérience. Enfin, j'ai connu l'époque des Royston Brenteau, Wesley Schneider, l'époque avant Calderon, qui était super néfaste. Et là, je pense qu'il y a une politique qui est contraire à la culture du Real Madrid, parce que vouloir se lancer sur des jeunes, c'est possible dans un club qui est un peu plus patient. Mais là, je le dis, le Real court, en tout cas cette saison, à sa perte, quoi. Peut-être pas à sa perte, mais en tout cas, pas droit dans le mur.
C'est peut-être un nouveau cycle, hein, ML.
Non. Non, c'est ça peut être accepté.
Bah après le départ de Zidane et le départ de Cristiano Ronaldo, forcément. C'est difficile à remplacer.
Je rejoins ML parce que le Real Madrid a dans son ADN d'avoir une équipe de stars. C'est dans l'histoire, c'est dans la culture du Real Madrid.
Mais c'est surtout, en fait, on commence pas un nouveau cycle avec Alvaro Odriozola et Vinicius Junior et Dini. C'est peut-être de grands espoirs du football, mais ils n'ont clairement pas encore ni le niveau ni le mental Real Madrid. Le Real, historiquement parlant, a tout le temps recruté les meilleurs joueurs au monde à prix fort. C'est eux-mêmes qui ont initié cette période d'inflation du mercato. Mais là, depuis quelques années, à part le transfert de James Rodriguez, je ne vois vraiment plus rien qui me rappelle le Real Madrid. Quoi. Après, bien sûr que l'explosion des transferts avec le marché anglais, les droits télé, comme vous le savez, mais aussi le transfert de la MLS de Neymar au PSG. Parce que pour moi, je suis le type de personne qui pense que les gros transferts comme ceux de Neymar, c'est des transferts rentables. Parce que transférer bien un sûr. Grand joueur qui sera tout aussi rentable sur le plan sportif et économique, je trouve que c'est un peu moins risqué. Bah oui, c'est beaucoup moins risqué que d'acheter un joueur à 30 millions comme Alvaro Odriozola, dont on ne sait absolument rien, qui n'apportera pas de plus-value économique, par exemple.
Non, mais il faut peut-être être patient pour le Real Madrid. Hein. Eden Hazard, ça va peut-être se faire, et c'est une star, Eden Hazard. Alors c'est peut-être pas la grande star attendue.
As, ils ont annoncé il y a même pas trois jours que Lopetegui est sur Isco. Et franchement, vous pensez vraiment qu'un transfert à plus de 140 millions, ça se négocie en une semaine comme ça? Et bien sûr, si ça devait se faire là, en ce moment, il y aurait des négociations pressées, on entendrait beaucoup plus de choses que ce qu'on entend pour le moment. Et là, pour vous dire que même Thibaut Courtois, j'y crois plus. La plupart des personnes pensent que Keylor Navas, certes, il a eu tout le mérite du monde, mais Keylor Navas a bientôt 30 millions.
Donc d'après toi, ils vont recruter personne alors?
En fait, ça dépendra beaucoup du match contre l'Atlético, le foot. Donc si ça se passe super mal pour eux, ça se passe mal, ils feront un transfert en urgence à la fin de mercato, ce qui est jamais une bonne chose. Parce que pour moi, il fallait qu'on ne pas le fait de laisser partir Ronaldo sans avoir un plan derrière. Parce que moi, je pensais qu'il allait avoir Neymar, Mbappé, Hazard.
Ah oui, d'accord.
Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a l'impression que Lopetegui veut opérer une sorte de changement de paradigme, mais alors de changer cette culture générale.
Attention. Hein.
De changer cette culture générale, qui est une culture avec des très grands joueurs. Et là, vraiment, on a l'impression qu'il veut s'appuyer sur les produits de la maison. Asensio, Isco.
Je sais pas si Florentino Pérez, il va peut-être marquer.
Ce que je veux dire, exactement, François, tu me fais une passe décisive, c'est que ça fait deux intersaisons que Florentino elle a pas sorti le chéquier, c'est ça qui m'étonne. Là ils ont l'argent et ça le démange.
Mais parce que Zidane il voulait pas toucher
Zidane la première.
Mais là c'est là maintenant là, il a les sous, ça le démange. Pourquoi on voit rien? C'est curieux.
Après les gars, si je peux me permettre, enfin il y a cette histoire, Florentino Pérez, c'est son quatrième ou troisième mandat au Real et il a tout prouvé sportivement parlant et économiquement parlant. Okay. Après, je pense qu'il commence à se faire vu cette histoire de stade qu'il n'arrive pas à financer. Parce qu'il avait fait des partenariats avec Epic, avec plein d'autres, enfin il avait fait plusieurs partenariats pour financer cette remodelation du Bernabéu et il n'y arrive pas. Donc je me demande, est-ce que il n'est pas en train de garder de l'argent pour ça ou alors pour une petite surprise l'été prochain qui ne plaira pas forcément au Paris Saint-Germain?
Bon, on verra ça en tout cas. Merci beaucoup Emel d'être passé.
Salut,
par RMC. Merci beaucoup.
Bonne
effectivement, il y a pas mal de doutes encore et de questions sur le Real Madrid qui a donc laissé partir, vous le savez sans doute, Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. On va tout de suite rejoindre Xavier Grimaud puisque le match Brest-Metz s'est terminé. C'était un match de la première journée, le dernier match d'ailleurs. Et c'est terminé, Xavier.
Ouais, terminé avec des retrouvailles réussies pour Metz et la Ligue 2. Et pour la Ligue 2 et Frédéric Antonetti, 14 ans qu'il n'avait pas coaché en Ligue 2. Victoire 1-0 des Messins. Le buteur, c'est Ibrahima Niane, pardon, à la 14e. Et c'est logique hein, pour les Messins, bien plus consistant que l'équipe brestoise. 1-0 pour Metz donc, ici à Brest.
Ouais, c'est toujours important de bien commencer une saison. Surtout en Ligue 2 où quand même c'est souvent serré, on l'a vu la saison dernière. Et t'es content pour Frédéric Antonetti?
Moi je suis très content pour lui. Moi j'ai passé de...
Qui a été ton coach, ouais, donc, j'ai passé à Nice.
Bonne année avec lui.
Une bonne année, il faisait jouer?
Ouais, j'ai joué, ouais, j'ai joué.
Il est dur, passé l'année. Il est sévère?
Non, il est pas sévère,
il est fou.
Non, il est exigeant. Il est exigeant, il est passionné. Il aime son métier et... voilà, après je pense que il est très fort tactiquement aussi. Après l'année où il était avec nous à Nice, on finit quand même 4e meilleure défense du championnat. On fait finaliste de la Ligue de la Coupe de la Ligue. On fait 6e au championnat, un truc comme ça, ouais. c'était pas mal.
Alors j'ai un petit message pour toi d'ailleurs de la part d'Adams27 sur le hashtag RMC Live. Samy jouait dans un 3-5-2 avec Baki Koné et Georges Ba en attaque. Et c'était Cyril Roll à gauche, une de mes équipes préférées. Voilà.
Merci.
Et sinon, un message pour moi, Bertrand Gallo qui me dit qu'on dit Impact de Montréal.
Impact.
Ouais. Voilà, de Montréal et pas Impact Montréal. J'ai peut-être dit Impact Montréal, mais je suis désolé. Ah oui. On va continuer juste rapidement sur le Mercato. J'ai deux autres infos à vous donner. Mercato Show, toujours avec Lucas Digne, qui, sauf revirement, devrait s'engager avec les Toffees, donc le club d'Everton, dans les prochaines heures. On parle d'un transfert compris entre 22 et 25 millions d'euros. Le latéral du Barça qui a été autorisé hier à quitter le groupe barcelonais en stage aux États-Unis. Lucas Digne qui a d'ailleurs posté sur Instagram un message d'adieu à ses coéquipiers et aux supporters du Barça. Il a écrit: j'ai réalisé un rêve d'enfant pendant ces deux ans. Le Barça est plus qu'un club et c'est une famille incroyable, c'est ce qu'il a confié, l'ancien latéral parisien. Il sera peut-être plus à l'aise à Everton qu'à Barcelone où il a pas souvent joué.
Il lui faut du temps de jeu, c'est tout.
Tout à fait.
Bah d'ailleurs, la Coupe du Monde lui est passée un petit peu sous le nez à cause de ça, sans doute.
Forcément.
Et puis un international belge qui est très très proche de Dortmund, c'est Alex Witsel. Witsel, décidément, auteur d'une belle Coupe du Monde, lui aussi avec les Diables Rouges. Et on en parlait déjà hier, qui devrait passer sa visite médicale à Dortmund aujourd'hui. Donc on attend des nouvelles pour un transfert qui avoisinerait les 20 millions d'euros. On en a un petit peu parlé hier, on l'a un peu évoqué hier. Ouais. Certains... ici disait qu'il aurait été pas mal pour le Paris Saint-Germain, qu'ils auraient peut-être dû se pencher sur l'affaire.
Pas trop, 20 millions.
20 millions, non.
Un joueur international belge.
Ouais, qui a fait une bonne Coupe du Monde. Mmh. Il vient de Chine. Voilà, c'est la fin du Mercato Show. Hein. Dans un instant, restez avec nous. La suite.
J'ai fait passer le message.
Balotelli, ça va se rapprocher. Ne t'inquiète pas, Balotelli ou Giroud, on en a beaucoup parlé. Continue l'after avec dans un instant d'autres infos et puis surtout le quiz. Jouez avec nous au 32-16. On vous attend évidemment pour jouer avec Samy et avec Jonathan dans l'after jusqu'à 23h. Vous connaissez la musique. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'afterfoot, François Pinet.
C'est reparti pour l'after, on est encore ensemble pendant un gros quart d'heure avec Jonathan McCarty et Samy Traoré. On vous fait gagner un jeu, le Perudo. C'est le jeu des champions du monde, c'est un jeu de dés, c'est pratique, c'est pas très grand, ça rentre dans une valise et vous pouvez jouer en vacances, sur la plage, où vous voulez. C'est plutôt sympa et on vous fait gagner, si vous gagnez le quiz bien sûr, si vous gagnez le quiz, donc ça, vous pouvez jouer avec nous au 32-16, nous rejoindre. Je ne donne pas encore le thème du quiz. Restez prêts, messieurs. On va d'abord vous donner 2-3 infos avec, pour commencer, Thomas Lemar, qui a été présenté à l'Atlético Madrid aujourd'hui, transféré, je vous le rappelle, 70 millions d'euros. Et il a posé avec son maillot, le maillot numéro 11, Thomas Lemar, qui reprendra l'entraînement début août. On va l'écouter.
Bah, j'avais déjà eu des échos de d'Antoine et Lucas et j'en ai vu de mes propres yeux. C'est sûr que c'est une autre préparation que celle que j'ai connue auparavant avec avec Monaco. C'est beaucoup plus exigeant et plus difficile. Donc je m'y habitue, mais je pense que ça va payer au fur et à mesure de la saison.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan?
Après, Alassane Pléa qui nous dit qu'en Allemagne on s'entraîne mieux qu'en France, lui dit la même chose, c'est toujours les mêmes discours, c'est quand même un peu rageant quoi.
C'est peut-être parce que c'est véridique aussi.
Bah oui, mais justement Samy, c'est parce que c'est véridique que c'est rageant.
Bon là il va dans un club où on travaille beaucoup, on le sait, hein, l'Atlético Madrid. Hein. Et il a dit aussi, je vais donner tout ce qui est possible pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions et gagner cette Ligue des Champions, sachant que la finale se jouera dans le stade de l'Atlético Madrid,
au Wanda,
le 1er juin 2019. Elle a fière allure quand même cette équipe de l'Atlético Madrid. Hein. Griezmann, Hernandez, maintenant Lemar. Ils ont gardé les cadres.
Ils ont le meilleur gardien au monde.
Ils ont Godin.
Ils ont Oblak. Ils ont une charnière centrale qui, avec Diego Godin, et peu importe qui tu lui adjoins, Savic ou Lucas ou peu importe,
c'est
une super charnière. Ils ont des latéraux de très haut niveau. Au milieu de terrain, il y a Coquet, Saoul, et enfin, ils ont de la qualité partout.
Ils ont de la qualité partout.
Thomas Partey aussi, qui est un super joueur. Ils ont de la qualité.
Je trouve excellent.
Excellent.
Hein, franchement.
Ouais.
Non mais personne n'en parle de ce milieu de terrain là, mais je le trouve tellement fort.
Thomas.
Ouais.
Ah ouais, c'est un super joueur.
Je le trouve tellement fort.
C'est un super joueur.
Une facilité technique dans l'engagement, il est costaud,
de la puissance.
Ouais, c'est ça.
Et il est très intelligent dans le jeu.
Bon, en tout cas, ça va peut-être faire du bien à Thomas Lemar de jouer à l'Atlético Madrid parce qu'on lui a souvent reproché son côté un peu pas assez physique, peut-être pas assez combattant. Là, il va se transformer en combattant.
Vous vous rappelez du début de Griezmann à l'Atlético? C'est dur les 6 premiers mois.
C'est dur, il met
du temps à s'adapter. Et puis au final, quand ça prend, ça prend. Donc je pense qu'avec Lemar, il va falloir pas être en attente trop tout de suite. Il va falloir lui laisser le temps de digérer la charge de travail et l'entraînement, du style de jeu, des efforts qui vont lui être demandés. Mais je pense que vu son bagage technique, s'il arrive à embraser le projet de Diego Simeone, alors là,
ils vont le revendre très très bien.
Pourquoi le revendre? Pourquoi il ne resterait pas?
Il va tout casser.
À faire une plus
belle. Regarde les attaquants, voire les milieux excentrés qu'ils ont à chaque fois à l'Atlético. Il brille un an, deux ans, boum, ça part. Regarde Carrasco.
Non, Carrasco, il est parti parce qu'il a.
Mais c'était bon. Moi, j'ai trouvé bon quand il était.
Carrasco,
Ligue des Champions,
il était pas mal sur sa première saison, mais après, il est parti parce que Diego Simeone n'en voulait plus, parce que ses performances étaient en deçà, son implication était en deçà. Non, en général, il les garde les bons joueurs. Regarde Antoine Griezmann, il le garde.
Tu vas voir Falcao, des trucs comme ça, c'est parti.
On est dans une autre époque de l'Atlético. L'Atlético maintenant, avec les nouveaux investisseurs, ont beaucoup d'argent. Ils peuvent garder leurs joueurs. Regarde Coquet, il est toujours au club. Griezmann,
c'était sûr qu'il allait rester, t'inquiète pas, malgré la vidéo polémique.
Alors, Zlatan Ibrahimovic, des nouvelles quand même.
Un triplé.
Le premier triplé de sa carrière en outre-Atlantique aux États-Unis pour donner la victoire à son club, le Los Angeles Galaxy contre Orlando City, victoire 4-3, c'était la nuit dernière. 15 buts en 17 matchs quand même, hein, Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur.
Il continuera.
Le Galaxy qui est troisième de la Conférence Ouest à une longueur du Los Angeles FC, l'autre club de Los Angeles.
Il a dit qu'il ne voulait pas jouer le All-Star Game.
Et il va pas jouer le All-Star Game, exactement, qui a lieu mercredi contre la Juventus. Donc le All-Star Game, c'est comme au basket, les meilleurs joueurs du championnat nord-américain. Et il dit, je suis vraiment déçu de manquer ce All-Star Game. Parce qu'en plus, ça sera face à l'un de ses anciens clubs, la Juve. Je remercie les fans de m'avoir choisi, puisque ce sont les fans qui votent, pour en NBA, en basket américain. Mais je souhaite avant tout aider mon club à se qualifier pour les playoffs. Voilà ce qu'a dit Zlatan Ibrahimovic. Un mot de Mahrez, puisqu'hier on en parlait, on était un petit peu inquiet par l'international algérien Riyad Mahrez qui a été touché à la cheville dimanche dernier avec son nouveau club de Manchester City. Et bien finalement, plus de peur que de mal, il va pouvoir reprendre l'entraînement cette semaine et pourrait même être dispo pour le Community Shield face à Chelsea dimanche prochain. Voilà, recruté 68 millions d'euros, on le rappelle, Riyad Mahrez.
Tant mieux pour lui. C'est plutôt une très très bonne nouvelle pour lui
et pour Manchester City. Balotelli, tu voulais des nouvelles? Je t'en ai trouvé.
Ah,
bah alors,
c'est... les cotons.
Non mais c'est pas des nouvelles qui vont forcément te réjouir, mais en tout cas il est de retour à l'entraînement. Voilà, ah, okay. Ce que je peux te dire. Avec le groupe, c'est la première fois. Oui, il s'était entraîné à Nice, mais tout seul, le groupe n'était pas là. Là, il s'est entraîné avec le groupe. Ce lundi matin, l'attaquant international italien qui a participé normalement aux exercices puis, préparés.
C'est une bonne chose.
Je t'en donne une autre d'info. Il a liké une publication de l'Olympique de Marseille sur Instagram.
Ah.
Ouais. Mais bon, Jacques-Henri Hérault, Batshuayi.
Ah, tu veux plus de Balotelli?
Bah, si le choix entre Batshuayi et Balotelli, il est vite fait.
Et
hein.
Giroud alors? Giroud, parce que l'OM a sondé Giroud, ça on vous donne cette information depuis quelques jours sur AMC Sport, et Florian Thauvin, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram,
coéquipier Giroud,
voilà, je le ramène à la maison, c'est la photo qu'il a mise sur Instagram.
À Ibiza.
Voilà, son coéquipier en équipe de France, évidemment, champion du monde, ils se sont croisés à Ibiza. Voilà.
Bah, entre Batshuayi et Giroud, je préfère Batshuayi.
Tu allais à Ibiza toi aussi en vacances, parce qu'ils vont tous à Ibiza les autres.
C'est génial.
T'allais où, Samy?
Ça dépend.
D'ailleurs, t'as pas de vacances là cette année. T'avais été puni.
François, mais Ibiza, c'est génial. C'est génial parce que Ibiza, si tu veux faire la fête, je fais la fête. Mais l'île est grande, donc si t'as envie d'être vivre avec des hippies ou être en famille sans électricité, sans eau, c'est possible aussi. Et c'est magnifique comme endroit.
C'est magnifique. C'est sans doute très très magnifique. Et il n'y a pas que des boîtes de nuit. Tu as raison de
dire. Les boîtes de nuit, en fait, c'est que tu prends un bus dans le centre-ville qui t'amène dans une espèce de zone industrielle où il y a des boîtes de nuit. Mais sinon, la majorité de l'île est assez sauvage.
Bon, le quiz maintenant, c'est parti. Vous êtes prêts pour le quiz? Vous êtes chaud?
C'est parti.
Alors, on a Paul et Dogan qui est avec nous. Salut Paul. Salut Dogan. On dit bien Dogan?
Oui, c'est Dogan.
Paul.
Ouais, c'est...
Oui.
Ça va les gars?
Salut, ça va?
Ça va.
Alors, je rappelle que vous pouvez gagner le vainqueur du quiz, un Perrudo. Si vous ne gagnez pas ce soir, c'est pas grave, il y en aura d'autres à gagner cette semaine dans l'after, vous inquiétez pas. Paul, tu veux jouer avec qui?
Étant parisien avec Samir Adonna.
Mais on va perdre Paul, si non, s'il est fort, attention, mais je vais te donner pour toi.
Dogan, il joue avec moi, il est pour l'OM.
Ah bah oui, nickel.
Voilà. C'est pas grave, si on perd entre parisiens, c'est pas grave.
Donc Paul avec Jonathan. Non, Paul avec Samy et Dogan.
Ah ouais, t'as bien raison.
Dogan avec Samy. Alors, le quiz, comme tu as parlé Jonathan tout à l'heure de l'équipe de France et des compositions de Didier Deschamps et des listes de Didier Deschamps, ça nous a inspiré ce quiz. C'est pas facile, attention. On va vous demander des enchères tout simplement, il faut me dire dans le premier match de l'ère Deschamps. C'était un France-Uruguay au Havre. Indice, 0-0, il y avait eu. Combien de joueurs français ont foulé la pelouse ce soir-là? Combien vous pouvez m'en citer? On fait des enchères. Attention, Paul et Dogan, vous pouvez aider Jonathan et Samy, mais avec un seul nom. Vous n'avez le droit qu'à un nom, parce qu'on sait que comme vous n'êtes pas là, on peut pas vous surveiller, on peut pas savoir si vous êtes sur Internet. Alors, combien, Jonathan et Dogan, vous pouvez me donner de joueurs français qui ont foulé la pelouse ce jour-là? France-Uruguay, ou
5.
Est-ce que tu dis plus, Samy? Avec Paul.
Allez, plus 5, ça va être chaud.
Si vous dites 5 et vous n'avez pas les 5, le point va à Paul et Samy. Hein.
Ouais.
Donc vous restez sur 5. On les laisse y aller sur 5.
Vas-y, fais un peu.
C'est parti pour les 5. Alors, peut-être que Dogan veut donner son nom.
Vas-y, Dogan, donne ton nom. Mais un pas évident, si t'as.
Ouais, vas-y, bah, je vais dire Mvila.
Bah déjà c'est pas bon, perdu. Donc tu l'as pas aidé, donc faut que tu trouves les 5 tout seul, Jonathan.
Loris,
c'est bon.
Matuidi?
Non.
Aïe.
Benzema,
oui.
Varane,
non.
Bon bah c'est perdu, alors Edigne.
Mais c'est perdu. Le point va à Samy et Paul. C'était Loris, Debuchy, Yanga Mbiwa, Sakho, Evra, Mavuba, Gonalon, Valbuena, Ribéry, Giroud, Benzema et les remplaçants qui ont participé à cette rencontre. Jallet, Capou, Briand, Gomis, Martin.
C'était pas évident.
Ah c'est pas facile. Alors on va se rapprocher un petit peu en timing. Nous allons nous attarder sur le premier match post-Coupe du Monde 2014. C'était un France-Espagne au Stade de France et c'était une victoire 1-0 de l'équipe de France. Combien de joueurs français ont foulé la pelouse ce soir-là? Combien vous pouvez m'en citer?
C'est quand la date?
C'était après la Coupe du Monde, donc ça devait être en août 2014. En septembre 2014, pardon. Samy, peut-être que tu veux commencer pour donner un nom avec Paul.
Je suis en train de réfléchir.
Bah, donne un
chiffre. C'est à toi qui a gagné le point, c'est à toi de donner.
Tu peux commencer petit.
Moi, je dirais 5 comme les autres.
Ah, 5 direct?
Ouais, je pense que c'est faisable.
Allez,
5, mais tu vas m'en donner qu'un.
Non, on en dit 6. On en dit 6.
Mais sachant, Paul, que tu ne peux en donner qu'un seul. Hein, c'est Samy qui doit donner les 4 autres.
Hein. Ah ouais.
Ouais, bah, je vais essayer de lui en trouver un chaud.
Bon, vas-y.
T'es sûr, Samy, tu pars sur 5?
Ouais. T'acceptes ou pas, Samy? Moi, je le laisse.
Ouais, vas-y, ça va tenter. Hein.
Coupe du monde 2014, hein. Voilà. Coupe du monde 2014. Bah, faut réfléchir à ceux qui étaient au mondial.
Je vais te dire Debuchy.
Debuchy, c'est bon. Il en reste 4 à trouver, Samy. Il y en a un facile, quand même. Je vous aide pas beaucoup, mais. Allez.
Franchement, l'équipe Samy ressemble à celle d'aujourd'hui, vas-y.
4.
Varane. 3.
Varane, c'est bon.
2.
Non, attends.
10. Allez, gardien.
9.
Sidibé.
Loris, oui.
Sidibé, c'est mort, il a donné un mauvais. C'est fini quand tu donnes un mauvais dans les enchères.
Ah, Sidibé, c'est pas bon.
C'est pas bon. Bah non, mais c'est perdu alors.
Loris, Debuchy, Varane, Sako, Evra, Matuidi, Pogba, Sissoko, Valbuena.
Debuchy, du coup, il pouvait pas y avoir Sidibé.
Griezmann, Benzema, Digne, Kabaï, Schneiderlin, Capella et Rémi. C'était quand même plus facile, hein. Donc le point va à Jonathan Erdogan. Un partout, attention, suspense total dans ce quiz.
J'ai marqué contre moi quand, vas-y.
Et c'est Jonathan et Samy qui donnent les chiffres, hein, parce que sinon les autres, vous les mettez dans la panade, comme on dit. Ça, c'est un mot pour toi. C'est parti, le dernier. Nous allons nous arrêter maintenant sur le premier match post-Euro 2016. Il s'agit d'Italie-France, c'est à Bari. Victoire des Bleus, 3-1. De l'équipe de France. Combien de joueurs français qui ont foulé la pelouse ce soir-là, pouvez-vous me citer? On commence les enchères avec Jonathan et Dogan.
Moi, j'en ai un. En plus, il marque.
On va donner 5. Encore
5. Est-ce que tu dis plus, Samy? Plus que 5.
De toute façon, s'il donne 5, il a gagné.
Ah oui, s'il donne 5, il a gagné.
C'est le principe.
Le buteur ou pas, toi, Jonathan?
Comment?
Le buteur, tu l'as ou pas?
Non, je l'ai pas. Non.
Pas de parlotte.
Vas-y, fais-toi 5.
Vas-y, Dogan.
Samy, tu laisses tomber. Ok.
Vas-y, Dogan.
Non, c'est Valbuena. Oui, Dogan donne un nom.
Ouais.
Un nom, Dogan.
Valbuena, il marque en plus.
Valbuena?
En 2016.
Après l'Euro?
Ah non, merde, c'est pas bon.
T'as perdu, mon ami.
Ah mince, la déception. Tu les avais, les 5?
J'avais dit Griezmann, Loris, Varane, Matuidi, Pogba.
Griezmann, Loris n'a pas joué, c'était un petit piège. C'était Mandanda qui avait joué.
Bon, ça aurait été perdu.
C'était quoi, Griezmann?
Tu vois que c'était pas
Varane. Il y avait Mandanda, en fait, dans les buts. Sidibé, Varane, Koscielny, Kurzawa, Pogba, Kanté, Matuidi, Griezmann, Giroud, Martial. Et puis les remplaçants qui avaient joué à l'époque, Umtiti, Digne, Sissoko, Dembélé, Gignac et Payet.
Mais post-Euro 2016. Bon, c'est pas grave.
Donc victoire, mais pas une très belle victoire, je dois l'avouer quand même.
Les Portugais sont champions d'Europe, c'était pas trop beau, non? Ils sont champions d'Europe.
C'est une victoire à la portugaise de Samy.
Bah regarde, comme l'auditeur, il a gagné.
Voilà, alors qu'est-ce que tu as gagné, Paul? T'as gagné à Perudo, tu sais jouer au Perudo?
C'est quoi le Perudo, les gars?
Je te l'explique depuis le début de l'after.
C'est un jeu avec Dédé, toute l'équipe de France, il a joué toute la Coupe du Monde.
Voilà, j'étais pas là, mais de la bombe, c'est cool, les gars.
Non, mais c'est un petit jeu sympa.
C'est pas mal.
C'est un jeu de dés, et les joueurs de l'équipe de France sont fans. Et en plus, il est aux couleurs de l'équipe de France. C'est un petit peu collector et on te l'envoie évidemment, Paul, parce que tu as remporté ce quiz. Il y aura d'autres Perudo à gagner. Bravo, bravo, Paul. Dogan, désolé, mais tu as quand même gagné un magnifique t-shirt de l'after pour faire sensation sur les plages.
Ça me fera le quatrième alors.
T'as déjà gagné trois t-shirts de l'after.
On a gagné beaucoup de fois le quiz avec Dogan.
Tu pourras l'offrir. Tu pourras l'offrir, c'est bien.
En tout cas, t'as perdu ce soir.
Bon, tu pourras revenir évidemment pour essayer de gagner la Perudo. Merci beaucoup Dogan, merci beaucoup Paul, et je vous rappelle aussi que cette semaine, hein, dans l'after, on vous fait gagner un Subuteo. Voilà, c'est un jeu ça pour les plus anciens. Les plus anciens connaissent sans doute que les joueurs de l'équipe de France ne jouent pas à ça.
Ça c'est sûr.
Mais Samy, toi, tu as déjà joué à ça.
Ah, je suis vieux moi.
C'est en plus une boîte spéciale Subuteo qui fait référence une édition mondiale. France-Brésil pour revivre avec
pour
le météo, le jeu, voilà, pour casser ses ongles aussi. La finale France-Brésil. Voilà, il faut faire le 7-32-16, envoyer after au 7-32-16 pour gagner ce Subuteo toute la semaine.
Appelez,
un tirage au sort
plus, à mon avis,
aura lieu en fin de semaine prochaine. Merci beaucoup, Samy. À bientôt dans l'after. Demain, c'est JC Drouet qui sera à ma place. Merci, Jonathan.
Merci, François.
Et vous avez été parfait. Vous aussi, au 32-16, vous avez été parfait. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur RMC. Longue vie à l'after. C'est toute la semaine, 21h-23h, et tout l'été avec Samy, avec Jonathan et avec tous les amis de l'after. Merci à tous, bonne soirée et bonne nuit sur RMC et sur BFM Sport. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.